Chers amis, chers frères et sœurs, vous le savez, nous vivons un temps inédit, éprouvant pour nous tous, qui touche le monde entier. Je vous rappelle que cette crise sanitaire touche les pays du monde, et je pense en particulier à certaines régions où il n'y a pas les équipements nécessaires ni les moyens médicaux pour prendre en charge de manière efficace les malades. Mais surtout, je pense aussi aux conséquences de l'épidémie, conséquences sociales, économiques, relationnelles, qui vont s'amplifier, semble-t-il, dans les semaines et les mois qui viennent, les temps qui viennent. Beaucoup vont être confrontés à des difficultés économiques, relationnelles. Nous ne savons pas exactement, nous n'avons pas prise, nous n'avons pas une vision claire de la façon dont les événements vont se dérouler dans les mois qui viennent. En tout cas, beaucoup de nos concitoyens, peut-être certains d'entre nous, sont parfois dans l'angoisse, la peur, le trouble, comment va se vivre le déconfinement à partir du 11 mai. En tout cas, je voudrais vous inviter, en particulier ceux d'entre nous qui sommes chrétiens, à vivre ces moments de manière évangélique, c'est-à-dire en tentant de vivre l'exigence évangélique comme nous l'avons vécu ces dernières semaines. Le fait que nous ne puissions pas nous retrouver pour célébrer l'Eucharistie ensemble ou pour d'autres temps ne nous empêche pas d'être chrétiens. Bien au contraire, seulement nous devons l'être dans ces circonstances particulières, particulièrement éprouvantes. Et je vous rappelle qu'au cœur de la proposition de l'invitation du Seigneur, il y a le double commandement, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, aimer son prochain. Et ces deux commandements vont l'un avec l'autre. L'un est le point de vérification de l'autre, si je puis dire. Et rappelons-nous aussi que nous serons jugés sur la charité, sur l'amour. Souvenons-nous du texte dans Matthieu, du jugement dernier, où le Seigneur dit j'étais nu, tu m'as habillé, j'avais faim, tu m'as donné à manger, j'étais en prison, tu es venu me visiter, j'étais un étranger, tu m'as accueilli. Et ses disciples lui diront, mais quand t'avons-nous vu avoir faim, soif, à chaque fois que vous l'avez fait un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Nous serons jugés sur la charité, que nous le voulions ou non. Nous sommes aussi dans ces 50 jours qui passe entre le temps de Pâques, la fête de Pâques que nous avons célébrée il y a quelques semaines, et la fête de la Pentecôte que nous célébrerons bientôt. Et donc je vous invite à vous situer à ce que nous sommes dans la lumière de la résurrection, du Christ ressuscité. J'ai devant les yeux l'image de Jésus ressuscité qui apparaît à ses disciples. Et à chaque apparition, telle qu'elles nous sont rapportées dans les évangiles, il commence par dire « la paix soit avec vous », quitte à préciser « ne vous troublez pas, n'ayez pas peur ». J'ai aussi en mémoire des propos qui avaient été prophétiques et d'une puissance très grande du pape Jean-Paul II au début de son pontificat. D'ailleurs, il ne faisait que reprendre les propos du Christ et de l'évangile « n'ayez pas peur ». Et lui-même commentera « Ce n'ayez pas peur ». Permettez-moi de le citer. « Ce n'ayez pas peur » doit être pris dans son acception la plus large. C'est un encouragement adressé à tous les hommes afin qu'ils surmontent la peur que leur inspirerait l'état du monde contemporain, aussi bien à l'est qu'à l'ouest, du nord qu'au sud. « N'ayez pas peur de ce que vous avez vous-même créé. N'ayez pas peur de ce qui, dans ce que l'homme a produit, risque de se retourner contre lui. En un mot, n'ayez pas peur » de vous-même. Alors pourquoi ne devons-nous pas avoir peur? Mais parce que l'homme est sauvé par Dieu, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, non pas pour juger le monde, mais pour qu'il soit sauvé. Parce que nous croyons, nous chrétiens, que le Fils de Dieu demeure au cœur de l'histoire de l'humanité comme le Rédempteur et le Sauveur, et que le salut imprègne toute l'histoire humaine, y compris chacune de nos situations et de nos vies les plus difficiles. La puissance de la croix du Christ et de sa résurrection est toujours plus grande que tout le mal dont l'homme pourrait et devrait avoir peur. Rappelons-nous, nous avons la certitude et que se fortifie en nous la certitude qu'il existe quelqu'un qui tient dans ses mains le sort du monde qui passe, quelqu'un qui détient les clés de la mort et de l'enfer, quelqu'un qui est l'alpha et l'oméga, pour reprendre l'écriture, alpha et oméga de l'histoire de l'homme, qu'elle soit individuelle ou collective, mais surtout la certitude que ce quelqu'un est amour, amour fait homme, amour crucifié et ressuscité, que l'amour sans cesse est présent au milieu des hommes, et que cet amour est une source, et que nous pouvons croire le Christ quand il nous dit « n'ayez pas peur ». Bien sûr, nous ne pourrons pas, vous le savez, nous retrouver pour célébrer l'Eucharistie publiquement avant le 2 juin, peut-être avant pour la Pentecôte, si l'évolution de l'épidémie le permet. Mais nous n'en savons rien. Toujours est-il que pour le moment, les cérémonies religieuses publiques ne sont pas autorisées avant le 2 juin. Bien sûr, nous aspirons tous à pouvoir célébrer l'Eucharistie ensemble et nous souffrons de cette absence. Bien sûr, vous le savez, la conférence épiscopale avait proposé un schéma pour que nous puissions nous retrouver dès le 11 mai avec un processus sanitaire étudié. Bon, ce n'est pas possible. Nous pouvons le regretter. Nous pouvons nous poser des questions sur la manière dont cela a été communiqué. Toujours est-il que je tiens à vous dire que nous ne sommes pas d'abord dans un temps de persécution. Nous sommes dans une situation inédite d'épidémie. Jamais notre génération n'a été confrontée à cela. Cette épidémie nous remet en face de notre vulnérabilité, interroge le monde contemporain, sa manière de fonctionner, et nous-mêmes sans doute. Tout d'un coup, un virus vient nous rappeler que nous sommes mortels, que nous ne sommes pas tout-puissants. Et il nous faut sans doute entendre jusqu'au bout ce que cela signifie. Alors comment vivre ces semaines qui viennent? Je voudrais d'abord vous rappeler que toutes les églises sont ouvertes, ou du moins la plupart d'entre elles. Elles l'ont d'ailleurs toujours été. Donc nous pouvons, et sans doute devons-nous le faire plus, venir prier individuellement, nous recueillir quelques instants devant Jésus, dans l'Eucharistie, au tabernacle, dans nos églises en tout cas. Entrer en dialogue avec lui. Sachez aussi que, je voudrais le dire clairement, il est possible de recevoir le sacrement du pardon, de la réconciliation, de se confesser. Dans les églises, nous allons proposer pour le diocèse et indiquer les églises ou des permanences dans différents endroits du diocèse et des horaires seront mis en place et il sera possible de, si pour ceux qui le souhaitent, de recevoir le pardon. Bien sûr, nous aspirons tous à célébrer l'Eucharistie ensemble. Et je souhaite que dès le juin, peut-être plus tôt, nous pourrons nous retrouver. Il faudra que nous tenions compte des mesures sanitaires. Une équipe du diocèse, comme d'autres diocèses, prépare une note précise sur les éléments qu'il faudra mettre en place pour que nous puissions nous réunir en tenant compte des contraintes sanitaires. Elles seront transmises aux paroisses dès que possible. D'autre part, je voudrais aussi insister peut-être en ce temps que nous pouvons mettre en place une prière personnelle. Peut-être parfois nous avons besoin de structures plus précises. Je voudrais vous inviter à peut-être recevoir l'invitation justement du pape François qui indique que nous pouvons prier le chapelet. Peut-être pouvons retrouver cette prière qui nous aide à méditer l'Évangile, c'est à dire ensemble, ou en famille, ou seul, ou au moment divers de la journée. Je pense aussi à la prière de l'Angélus, mais aussi nous pouvons lire quotidiennement, nous astreindre, le passage de l'Évangile du jour, et bien d'autres manières que nous vivons déjà, mais qu'il nous faut continuer à mettre en œuvre. D'autre part, la charité en acte qui se développe, l'attention à nos voisins, à nos proches, mais aussi à ceux dont on ne fait pas attention d'habitude. Développons-le et que cela devienne peut-être comme une école nouvelle pour chacun d'entre nous. Enfin, je voudrais aussi relayer l'appel du pape François qui a invité toutes les religions à s'unir dans une journée de prière et de jeûne le 14 mai prochain. Alors faisons-le si cela nous est possible pour que nous demandions au Dieu Tout-Puissant, Créateur, de nous garder et de nous sauver de cette étape difficile de l'humanité. Enfin, nous nous préparons à célébrer la Pentecôte. Et je vous propose que nous vivions ces jours, ces semaines, comme un temps de préparation à la Pentecôte, que nous entrions au Cénacle, vous savez, cette pièce haute où les disciples se sont réunis à la demande de Jésus pour attendre la venue de l'Esprit Saint. Vivons ces jours comme un Cénacle. Différentes propositions pour nous aider à prier, à méditer sur l'Esprit Saint nous seront proposées et nous sont proposées par les services du diocèse. Vous pouvez vous y joindre, bien entendu, et vous les utiliser. Je me permets pour conclure de vous citer un passage des Actes des Apôtres. Ils retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et ses frères. Soyons ensemble témoins de la charité et de l'espérance. Merci.